On est parti. Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. Alors aujourd'hui, grâce à mon invité, nous allons aborder une pratique que tout le monde connaît à peu près. Être dans un état second, dans un état modifié de conscience ou encore dans un sommeil magnétique, tout le monde vit cette expérience plusieurs fois par jour. Qui n'a jamais conduit sa voiture en mode pilote automatique? On se laisse glisser sur la route, puis tout d'un coup on regarde sur le compteur et on s'aperçoit qu'on vient de faire 50 km. C'est une forme d'auto-hypnose. L'hypnose est marquée par un état modifié de conscience, léger ou profond, et cette pratique permet aux praticiens d'avoir accès à l'esprit inconscient du patient. Nous demanderons à notre invité de quoi il en retourne et dans quelle situation l'hypnose permet d'aider les patients. Mais notre invité nous parlera également de coaching de vie, coaching professionnel, coaching de l'âme, tout comme du rôle primordial qu'il donne à l'intuition. Bonjour Jean-Marc Vidal.
Bonjour Adeline et bonjour à vos auditeurs. Heureux d'être avec vous.
Eh bien, c'est partagé. Jean-Marc, alors tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes coach de vie intuitif, certifié hypnothérapeute, et vous allez tout nous dire sur l'accompagnement personnel et professionnel que vous proposez aux gens. Mais avant ça, on aimerait un petit peu plus vous découvrir, Jean-Marc. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours ?
Alors mon parcours, il est un petit peu de celui de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire que je viens du monde professionnel dans le cadre commercial, dans lequel j'ai développé des réseaux de vente directe, dans lequel j'ai développé et j'ai connu surtout le développement personnel. C'était dans les années 89 et donc j'ai eu un coup de cœur. Et pendant plus de 10 ans, j'ai développé des réseaux et un jour je me suis dit, en fait, je fais des choses qui ne me plaisent pas, enfin je suis payé pour des choses qui ne me plaisent pas et je fais des choses à l'intérieur qui me plaisent mais pour lesquelles je ne suis pas payé. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas mon cabinet ? Donc, j'ai suivi une formation avec tout d'abord Lise Bourbeau. J'ai eu un coup de cœur avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai suivi tout le cursus et j'ai démarré effectivement ce métier d'accompagnement. Et ensuite, en amenant à l'intérieur du coaching, oui, des certifications, avec de l'hypnose et d'autres techniques donc, qui sont venues se rajouter. Puisque quand on est avec quelqu'un, c'est un accompagnement global et effectivement, donc, différentes techniques, il y a de la PNL, enfin il y a différentes choses. Mais surtout aujourd'hui, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est qu'effectivement je suis très attaché au sujet de l'intuition. Et pour moi, c'est un élément très important parce que cet élément-là, c'est quelque chose qui va être nécessaire aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, on ne peut plus rien prévoir, on le voit aujourd'hui, tout est complètement défait, déconstruit. Et effectivement, au milieu de cette déconstruction, on a besoin de savoir comment avancer. Et c'est pour ça que l'intuition est importante. Voilà, donc mon parcours, en fait, donc depuis 2000, j'ai donc démarré un cabinet, j'ai fait de l'accompagnement. Pendant des années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Il était une fois soi », qu'on trouve sur Amazon. Et depuis donc de nombreuses années, maintenant, j'accompagne des professionnels, des particuliers, des gens qui, aujourd'hui, j'appelle ça, moi, des leaders du nouveau paradigme. Ce sont ces personnes qui sont entre 25... 40, 45 ans aujourd'hui aussi, un peu plus peut-être, mais cette tranche-là, ce sont des gens qui sont venus pour participer à cette transformation. Et j'accompagne tous ces gens pour leur permettre de sortir tout ce qui les bloque aujourd'hui pour qu'ils puissent exprimer réellement leur mission et leur chemin.
Très bien. Alors, moi, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur votre parcours. Oui. On va développer après votre activité. Hein. Voilà, le petit Jean-Marc Vidal, il était comment et qu'est-ce qu'il pouvait déjà un petit peu présager de ce parcours et de cette attache à développer donc votre spécialité.
Alors, effectivement, il y a une chose, c'est que j'ai toujours été à l'écoute. C'est-à-dire que depuis tout jeune, je me souviens, alors surtout à l'adolescence, on venait me voir, on venait me raconter tous les problèmes, enfin voilà, c'était inné et pendant longtemps, je ne me suis pas rendu compte parce que ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, les talents que l'on a, on n'en est pas conscient. Puisqu'un talent par principe, c'est quelque chose qu'on a depuis le début, c'est inné. Donc il n'y a que les autres qui peuvent nous le mettre en avant, ou nous permettre de le mettre en avant, et nous permettre d'en prendre conscience. Donc c'est vraiment cette partie-là. Mais pendant longtemps, comme beaucoup de gens, je crois, j'ai cherché à me caler dans les schémas, en fait. Okay. Je donne souvent cet exemple, en fait. Si notre talent, c'est simplement de prendre une carafe d'eau, de la remplir d'eau, de prendre cette carafe et de verser cette eau dans le verre de quelqu'un. On pourrait se dire, c'est un peu cheap, quoi, parce que dans sa vie, c'est un peu triste de faire ça. Mais si, par exemple, quand vous prenez la carafe d'eau, vous versez le verre et que la personne le boit et que ça la guérit, ça change tout. Donc ça veut dire que notre mental, lui, il est là à vouloir des choses, il voit des choses qui brillent, il veut le succès, il veut la réussite, et en réalité, il nous empêche de pouvoir regarder notre talent et de simplement faire en sorte de l'exprimer. Parce que c'est justement parce qu'on l'exprime qu'on va être en train d'être épanoui, de se sentir bien et surtout qu'on va être heureux dans notre vie.
Tout à fait. Alors, vous avez dit que c'était pendant votre premier boulot que vous êtes aperçu en fait que vous aviez envie de développer alors plutôt le coaching, plutôt l'hypnose. Qu'est-ce qui vous a...
Alors, disons que dans le domaine dans lequel j'étais, j'étais considéré dans ce domaine-là comme un leader, voilà, d'un réseau. Et donc, j'ai découvert ce que c'était le leadership. C'est-à-dire de pouvoir travailler, d'aider les gens, les édifier, leur permettre d'exprimer le meilleur et leur talent. Mmh. Tout ça, c'était confus. Je le faisais presque naturellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai voulu le continuer tout simplement. Mais je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était accompagner des gens. Et ce qui a fait aussi que j'ai eu cette envie, c'est que dans les années 98, j'ai eu un gros coup de blues et je suis parti pendant une semaine dans une abbaye. Et dans cette abbaye, j'ai écrit des centaines de pages et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffrance. Je crois que beaucoup de gens qui vont souvent dans le développement personnel ou qui y allaient auparavant ou qui font des formations vont les faire comme pour la psychologie, d'abord pour eux. Beaucoup de gens ne le font pas, évidemment, pour aider les autres, ils le font d'abord pour eux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de souffrance. Et quand j'ai pris cette prise de conscience qu'il y avait beaucoup de souffrance, je me suis dit qu'en fait, autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Et j'ai eu cette aspiration à me dire, il faut que je fasse quelque chose.
C'était pas un petit peu à contre-courant par rapport à l'époque, hein, parce qu'il y avait des méthodes quand même commerciales assez agressives, assez objectivantes. Enfin, il y avait pas mal de pression dans le domaine du travail. Hein, et voilà, on n'osait même pas dire qu'on allait s'absenter dehors pour fumer une cigarette. Ou c'était des exemples, mais... moi je me souviens avoir vécu très mal aussi cette période parce que je comprenais pas que le fait de développer son sens humain et d'être humain avec ses collègues c'était à contre-courant de ce qui était demandé, hein. On était perçu comme quelqu'un de faible, et puis on était mal vu, on était mal noté parce qu'on était trop gentil ou trop humain avec les gens. Donc ça doit être difficile pour vous qui avez encadré et coaché des personnes avec deux directions différentes, non ?
Alors, dans le cadre de l'activité que je développais, il y avait justement ce vecteur de bienveillance. Donc, c'était quelque chose de vraiment beaucoup plus facile, en fait. En fait, j'ai découvert cette façon de manager, qui pour moi n'est pas du management, d'accord ? C'est vraiment du leadership. Cette manière de faire et d'être avec les gens, tout à fait nouvelle. Et c'est vrai que dans les années 80-90... c'était pas quelque chose qui était quand même très connu, ça faisait un peu nounours, ça faisait un peu voilà, ça me neuneux quoi. Et alors que le fait de dire voilà, il faut manager par l'exemple, inspirer, édifier les gens, c'est des mots aujourd'hui qu'on peut entendre, mais par le passé, voilà, dans une entreprise, au contraire, ce qui se passe la plupart du temps quand il y a une hiérarchie, on va avoir quelqu'un qui a un pouvoir. Et ce pouvoir, il veut le maintenir. Donc obligatoirement, ce qu'il va plutôt faire, c'est avoir une position haute et mettre quelqu'un dans une position basse pour maintenir cet ascendant. Alors que là, la réalité, c'est quelque chose qui est pauvre, parce que ça veut dire que cette personne, elle est seule. Ça veut dire que si elle veut vraiment développer son service, son groupe, ou quelle que soit la structure, elle a besoin de gens qui vont se prendre en main, qui vont justement se prendre en main parce qu'ils auront confiance, et parce qu'on va leur donner cette capacité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait un travail sur soi, et donc dans cette activité, il y avait un travail qui se faisait déjà sur soi, à partir où on a fait ce travail sur soi, on n'a plus peur de perdre quelque chose. puisqu'en fait, on sait que quand on va le donner, ça va se multiplier. Alors évidemment, il y a parfois des gens qui peuvent se servir de ça. Il y a des gens qui peuvent être plus malins, voilà, qui vont servir. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y en a certains qui vont s'en servir qu'on ne doit pas continuer à le faire pour les autres. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on doit être effectivement dans cette position. C'est pas une position horizontale, mais c'est même pas une position horizontale, c'est une position juste d'être soi et justement de développer ce que l'on est et d'exprimer des choses. Et à partir du moment où on le fait, de toute façon, il y a une règle. À partir du moment où on se donne le droit de faire quelque chose, on le donne aux autres. C'est pas compliqué. À partir du moment où on s'interdit de faire quelque chose parce qu'on a peur, on interdit les autres de le faire et on va tout faire pour les empêcher de le faire.
Oui, c'est une forme d'exemplarité, tout simplement. Quoi,
c'est ça.
Bon, ou de mimétisme aussi pour ceux qui reçoivent. Quoi.
C'est juste ça. Si vous voulez, moi j'ai développé un concept qui s'appelle leader de sa vie, leader de son entreprise, leader de leader. Leader de sa vie, c'est-à-dire qu'au début, bien, la première chose, c'est devenir leader de sa propre vie, soi. Donc on va travailler sur soi, c'est la première chose. Si on n'a pas ça, le reste ne tient pas. Parce qu'après, le reste, c'est juste une façade. C'est juste faire comme si, mais en réalité, on ne l'est pas. Et la deuxième chose, leader de son entreprise, c'est la première entreprise, c'est sa famille. Quand on a une famille et des enfants, on a une entreprise. Après, on peut le développer dans le cadre d'une association, mais on peut après développer dans le cadre professionnel, avoir un projet où on va créer un projet avec des gens. Voilà, ça devient une entreprise commerciale. Okay ? Et puis le troisième point, c'est leader de leader. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un leader et qu'à partir du moment où on est passé par des choses, on sait, on ne fait pas semblant, on sait que ce n'est pas toujours... tout bien, tout facile. Non, c'est pas vrai. On sait que la personne va vivre des choses. Voilà, il y a des moments, il y aura des moments d'hésitation. À ce moment-là, on va pouvoir accompagner la personne parce qu'on la connaît, parce qu'on sait où on y est passé. Et à ce moment-là, on peut permettre à quelqu'un, non pas de devenir un clone, mais de devenir simplement ce qu'il est. Et quand il va être ce qu'il est, il va amener ce qu'il porte et ses talents.
Mmh. Très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de l'hypnose ? Alors oui. Moi, j'ai donné une définition, somme toute, assez simpliste, hein, mais l'hypnose a beaucoup évolué ces dernières années. On le voit, y a beaucoup plus aussi d'hypnose de spectacle, ça rencontre un fort succès. J'ai appris aussi dernièrement que, voilà, il y avait un grand musicien à Paris qui organisait des concerts sous hypnose pour 200 et 300 personnes. Il est en train de faire évoluer ça aussi en région. Mais d'un point de vue plus thérapeutique, je vous laisse donc nous décrire l'hypnose.
Alors si vous voulez, en hypnose, il y a plusieurs choses. Bon, l'hypnose de spectacle, j'en fais d'ailleurs avec... j'ai rencontré, on va parler d'eux parce que je trouve que c'est une bonne chose,
oui.
Voilà. Les hypnotiseurs, voilà, qui sont des gens qui font du spectacle que je connais très bien puisque j'ai fait une formation avec eux. Ils sont des gens maintenant connus en France, ont passé un incroyable talent et sont des personnes, pour des personnes qui ont envie de faire de l'hypnose, c'est vraiment une voie à explorer. Donc, l'hypnose de spectacle, c'est vraiment quelque chose de ludique. Moi, je prends du plaisir à le faire aussi. Voilà, c'est magnifique. Bon, deuxième chose, il y a l'hypnose qui est l'hypnose médicale. Alors, effectivement, on s'en sert aujourd'hui pour certaines opérations, des dentistes s'en servent. Voilà, c'est encore confidentiel, mais on voit aujourd'hui dans les hôpitaux des hypnotiseurs, des praticiens d'hypnose, comme vous voulez, des hypnothérapeutes qui sont sur un plan médical. Ensuite, il y a donc l'hypnose thérapeutique. Dans l'hypnose thérapeutique, on va en avoir plusieurs. Il y a l'hypnose humaniste, d'accord ? Vous avez l'hypnose ericksonienne, donc tout part de l'hypnose ericksonienne, et puis elle a évolué. L'hypnose moderne, en fait, ça regroupe toutes ces hypnoses, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'hypnose, il y a quelqu'un que certaines personnes connaissent, et si certains ne la connaissent pas, je vous inviterai à découvrir ça, c'est Dolores Cannon, qui est quelqu'un qui a travaillé sur l'hypnose régressive. C'est une dame qui a travaillé pendant plus de 20 ans. Elle a fait, je ne sais pas combien de clients, mais c'est énorme, elle a écrit plusieurs livres, et qui, elle, travaille sur la régression, et elle a amené des gens à vivre des expériences antérieures à leur vie, et même au-delà. Donc c'est intéressant parce que ce qu'elle a exploré, ce sont des choses aujourd'hui dont on a parlé dans la physique quantique, qui est, on parle de multivers, voilà, des choses comme ça, qui sont peut-être des concepts que certaines personnes entendent pour la première fois, mais pour les gens qui ont l'habitude d'entendre ça, ce sont des choses qui sont difficiles à concevoir pour notre mental, évidemment, on est un peu limité. Quand on parle de vivre dans plusieurs systèmes
dimensions
voilà, différentes, c'est un petit peu difficile à imaginer, mais elle a explorer ces domaines avec des personnes qui ont vécu des choses et qui ont dit des choses qui sont tout à fait exceptionnelles. Voilà. Donc, pour donner un petit peu le cadre de l'hypnose. Alors, si vous voulez, en hypnose, l'hypnose est souvent connue pour tout ce qui est addiction. Voilà. Arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger. Voilà, c'est la principale chose. Moi, je travaille là-dessus aussi, mais je travaille beaucoup plus sur les émotions. C'est-à-dire que, pour moi...
Dépendance affective ou des choses comme ça.
Exactement. Mmh. Parce qu'en réalité, en fait, toutes les addictions... Parce qu'avec l'hypnose, on peut très bien enlever une addiction à quelqu'un. Mais on n'enlève pas, si on ne travaille pas sur la cause, on va avoir quelque chose qui va se développer d'une autre façon. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur la cause, et la cause, elle est toujours émotionnelle. Voilà. Donc, la cause est émotionnelle, et très souvent, elle va venir de notre enfance, de cette période de 0 à 7 ans, dans laquelle on a vécu des choses, pas des choses obligatoirement qui sont difficiles, mais des choses que l'on a ressenties comme étant difficiles. Ou par exemple, pour beaucoup de gens, une des difficultés, c'est le fait de ne pas s'être senti aimé, par exemple, comme ils le souhaitaient. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu de l'amour. Ça veut dire que simplement, les personnes qui ont donné de l'amour autour d'eux l'ont donné comme ils ont pu le donner. La plupart du temps, ils ne l'avaient pas reçu eux-mêmes, donc ils n'étaient pas capables de le donner. Et quand on attend quelque chose, obligatoirement, ça n'arrive pas comme on le souhaitait. Donc, en hypnose, on va travailler effectivement sur toute cette partie émotionnelle. Et c'est pour ça que aujourd'hui, l'important, j'utilisais des mots, ces mots sont peut-être un peu forts, mais quand je dis un nettoyage émotionnel, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est-à-dire qu'on a vécu une situation, et cette situation, il y a un scénario. Ce scénario était difficile. Il y a eu des peurs, des angoisses, quelles que soient les choses, ou des manques. Et ce scénario, en fait, fait qu'une partie de nous a cristallisé. C'est-à-dire qu'une partie de nous est restée dans cette partie de l'enfant. J'ai rencontré, par exemple, quelqu'un, c'était avant-hier, qui avait une problématique qu'est-ce qu'elle avait ? Une problématique, bon, c'était lié à sa maman. Et en réalité, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que votre maman était tactile ? Est-ce que vous prenez dans les bras ? Elle me dit, non, ça, elle ne savait pas. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, elle a 45 ans, elle me dit, mais je suis avec ma mère, on s'appelle tous les jours. Donc, elle est dans cette dépendance affective, juste à vouloir faire que cette petite partie, cherche à recevoir cet amour de cette maman qu'elle n'a pas reçu à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus. Elle ne l'aura plus. Par contre, ce qu'elle a besoin, c'est de se libérer de cette attente. De façon à ce qu'elle puisse avoir une autre relation avec sa mère, et surtout que ça lui permette d'avoir une relation différente avec les gens autour d'elle. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'hypnose, pour moi, c'est quelque chose, j'utilise entre parenthèses, mais miraculeux, dans le sens où vraiment, on peut se libérer de tellement de choses. Et donc, toutes les addictions, de toute façon, les addictions, c'est quoi? C'est des manques. Donc, on va se remplir de quelque chose. Ou alors, on va chercher à sortir d'un endroit pour se trouver ailleurs, pour ne pas être dans la réalité. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y a quelque chose de souffrant. Donc, ça veut dire que si on enlève l'addiction à quelque chose, on a quand même ce manque qui va être là. Donc, ça veut dire que je ne dis pas qu'on peut obligatoirement enlever l'addiction à quelqu'un en enlevant ce manque. Tout est lié. Mais... vous savez, c'est un petit peu comme j'ai rencontré il y a quelques années une personne qui est sur Toulouse et qui est une professionnelle de naturopathie. Et on faisait un échange ensemble. Et elle me dit, écoute, j'aimerais qu'on travaille sur mon problème de cancer. Elle a fait un cancer du sein. Et lorsqu'on a travaillé, on s'est rendu compte que sa problématique, elle était liée à l'âge de 4 ans. Et il y a quelque chose qui s'était passé, donc à 45 ans, qui avait déclenché ça. Le problème, c'est qu'elle n'avait jamais travaillé sur cette problématique. C'est-à-dire qu'elle avait soigné le cancer, mais cette souffrance était toujours là. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, parce qu'il y aura à nouveau un moment où quelqu'un fera quelque chose...
Un stimuli, une...
Voilà, effectivement, ouais. À nouveau, il y aura une accélération des choses. Alors que là, lorsqu'on va travailler là-dessus, on va régler le problème, au moins ça ne viendra plus de là. Donc ça veut dire que... c'est vraiment des choses très importantes. Donc, évidemment, ça agit, je parle sur un plan physique, sur un plan du corps, la maladie. Ça agit, évidemment, dans notre vie relationnelle, ça agit dans notre vie professionnelle, ça agit aussi sur le fait de... Parfois, il y a certaines personnes qui vont passer toute leur vie à faire plus que les autres. Parce qu'elles sentent que ça ne suffit pas ce qu'elles font. Il faut qu'elles fassent plus. Il faut qu'elles donnent plus que les autres. Et j'en connais certains qui se sont épuisés et qui se sont même fait très, très mal. Parce que ce qu'ils faisaient n'était pas suffisant. Et tout simplement, il y avait derrière quelque chose. Et moi, j'ai un exemple d'un petit garçon qui un jour me dit, c'était son père qui me l'avait fait rencontrer, il me dit, j'aimerais que tu vois mon fils. Le gamin, il avait 12 ans, 11 ou 12 ans, petit. Et il me dit, moi, je vais être champion de foot, champion de ski, premier en ski, premier. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi ? Et il me dit, parce que moi, je vais être le premier partout. Je dis à son père, je crois qu'il faut que tu fasses une chose, c'est que tu t'occupes de lui, que tu lui dises que tu l'aimes même, s'il ne sera pas le premier quelque part. Parce que son père était tellement extraordinaire que pour pouvoir être à la hauteur, il fallait qu'il soit le meilleur partout. Mmh. Mais s'il était le meilleur en ski alpin, en escalade, un jour, il arriverait un pépin. Tout simplement parce que ce n'était pas ça qu'il devait faire. Donc quand il va se libérer, tout simplement, de cette emprise, pas du père, mais cette emprise qui attend lui et qui le maintient dans un fonctionnement qui n'est pas le sien, à ce moment-là, il ne va plus chercher à faire ça. À ce moment-là, les yeux vont s'ouvrir, on dit comme dans la Bible, les écailles qui tombent des yeux. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est qu'il va pouvoir être à l'écoute de ce qu'il a besoin et de ce qu'il veut faire. Et là, les choses viendront. C'est un peu la même chose quand quelqu'un va rencontrer, quelqu'un souffre de solitude et veut rencontrer une personne, un homme ou une femme. Et lorsque la personne attend la personne qui va l'aimer, donc elle va effectivement faire des choix qui ne seront pas les bons. Par contre, lorsque cette personne va commencer à prendre soin d'elle et faire en sorte que tout ce qu'elle attend de recevoir de l'extérieur, elle commence à se le donner. À ce moment-là, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus besoin de cet amour extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'aimer. Ça veut dire qu'elle n'en a plus besoin pour exister. Et à ce moment-là, elle va pouvoir effectivement être beaucoup plus disponible pour recevoir des informations, sentir les choses, et on revient à l'intuition dont on parlait tout à l'heure, pour se dire, c'est bizarre, cet homme ou cette femme, c'est pas l'archétype de la personne que j'attendais. Il parle pas comme j'attendais. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit oui. Donc, ça peut être aussi une personne magnifique, très belle, etc. Peu importe. Mais je veux dire par là que le fait de poursuivre des chimères, en fait, ces chimères, c'est juste des ancrages. Pour ça, on parle d'ancrage à l'hypnose aussi. Ce sont des ancrages émotionnels qui sont faits dans notre vie parce que c'est des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a senties. Et ce qu'on va faire en hypnose, on va retravailler sur enlever ce qu'on a senti, enlever ce qu'on a vu et enlever ce qu'on a entendu. D'accord ? De manière à pouvoir mettre un autre scénario, libérer la personne.
Oui, alors justement, quand on enlève une part de soi-même, on crée du vide, en fait. Et on sait qu'on n'aime pas le vide. Donc, est-ce que vous orientez pour remplir avec quelque chose de plus positif, de plus joyeux, tout ça ? Ou est-ce que la personne va elle-même trouver à remplir ce qui est parti, quoi, en fait ?
Alors, il y a plusieurs façons de faire, en fait. Il y a des façons qui vont être... des façons, dans l'hypnose humaniste, on va accompagner la personne, d'accord ? Et puis il y a d'autres hypnoses où on va effectivement induire des choses. Voilà, on va amener des suggestions. Je vous donner un autre exemple. Un jour, j'ai une jeune femme qui est en Tunisie, parce que je travaille pas mal aussi en visio à l'extérieur, et donc qui me dit, j'ai un problème parce que j'ai fait un avortement à l'âge de 22 ans. Et je souffre de ça et il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle a pu retrouver, elle a rencontré cet enfant. Elle a vu cet enfant.
Waouh.
Et donc, dans ce moment, il y a eu un moment de joie. Ils ont chanté, ils ont dansé, c'était extraordinaire. Et elle a vu qu'il était heureux. Et quand elle est partie, c'était pas un vide, c'était un plein qu'il y avait. Donc, ça veut dire qu'en fait, en hypnose, on ne va jamais faire un vide. On va faire quelque chose qui va juste être en train de libérer quelque chose. Libérer, ça ne veut pas dire qu'on va enlever. Ça veut dire que très souvent, c'est peut-être un scénario qui va être différent. Là, par exemple, elle culpabilisait parce que dans son esprit, c'était « j'ai donné la mort à un enfant ». D'accord ? Et là, elle a retrouvé cet enfant lumineux avec lequel elle s'est trouvée et elle a dansé. Elle me disait « elle a dansé ». Elle était absolument rayonnante quand elle est revenue. Donc, et là, tout d'un coup, sa vie pouvait continuer. Mmh. Alors que là, il y avait quelque chose où elle était, son mental était focalisé sur ce moment-là. Donc, comme elle était focalisée là-dessus, elle n'était pas du tout attentive, elle pouvait pas être attentive à tout ce qui pouvait se passer dans sa vie, à toutes les opportunités. Donc,
oui.
C'est ça qui est important.
Oui, oui.
C'est qu'en fait, notre mental, il va être focalisé sur la peur voilà, sur ce qu'il a perdu ou sur ce qu'il craint. Donc, et là, en hypnose, on va travailler justement sur le fait de désensibiliser et de changer parfois un scénario. D'accord ? Ça peut être d'autres choses, il peut y avoir d'autres suggestions. Et puis parfois, simplement, c'est d'accompagner. Parce que souvent, dans ce cadre-là, c'est elle qui a été. Moi, comme je travaille avec l'intuition aussi, j'avais l'impression d'être avec elle et donc de l'accompagner, de voir les choses. C'était absolument extraordinaire. Mais j'ai fait juste que l'aider à pouvoir vivre ça. Et en fait, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Parce qu'en fait, c'est pour ça que quand je parle d'intuition, quand on fait de la thérapie, quels que soient les domaines, on peut avoir des techniques. Ces techniques, elles sont importantes. Mais la technique, à un moment donné, on a besoin de s'en défaire. Parce que la technique, on ne peut pas la poser. Ce n'est pas du prêt-à-porter. C'est vraiment du sur-mesure. Et donc, obligatoirement, ce qui va se faire avec quelqu'un et que vous allez peut-être faire pendant 10 ans, à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne, c'est autre chose. Et c'est pour ça que quand on est en accompagnement avec quelqu'un, il doit y avoir vraiment cette symbiose. Voilà. Parce que notre intuition, en tout cas, je parle de l'intuition qui est développée dans ce que je fais, est très importante. Et parfois, il y a des choses qui sont à contre-courant. Vous dites, mais il y a quelque chose en moi qui dit, mais non, si. Voilà. Et quand, à ce moment-là, je le fais, ben, je sais que c'est juste. C'est pas quelque chose que je vais pousser, c'est pas quelque chose que je vais essayer de faire. C'est juste quelque chose, parfois, qui est complètement, je dis pas irrationnel, mais qui correspond à aucune technique. Mm-hmm. D'accord ?
Ah oui, je comprends tout à fait. Mais est-ce qu'il vous arrive justement au niveau... Bon, vous avez un certain éthisme, enfin l'éthique est très présent dans l'hypnose, c'est évident. Mais voilà, est-ce qu'il vous arrive des situations où vous avez refusé ou décliné ou proposé une aide extérieure à une personne parce que vous sentiez que c'est, intuitivement vous n'arriveriez pas peut-être pas à débloquer son problème.
Alors, j'ai pas eu ce genre de choses. J'ai eu juste une fois, une seule personne, où je lui ai dit « je peux rien pour vous ». Mais disons qu'il y a, lorsqu'on a échangé ensemble, ce que je disais, c'est que on est tous, pour moi, des thérapeutes. C'est que chacun d'entre nous, où que nous soyons, nous avons un rayonnement. Et ce qu'on a besoin, je parlais tout à l'heure de devenir leader de sa vie, et l'hypnose on permet de le devenir, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire que la première chose, le premier soin, c'est ce qui sort de nous, ce qu'on rayonne en fait. Je me suis rendu compte tout au début où j'ai commencé à faire, je travaillais donc en accompagnement, je me suis rendu compte qu'il y a des soirs où j'étais fatigué. Et puis il y a des soirs, j'étais obligé d'attendre 2-3 heures parce que j'étais dans une euphorie. Et les jours où j'étais dans cette euphorie, c'est qu'il y avait une chose, c'est que je me centrais à chaque fois. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que j'étais moi-même, l'énergie qui était à travers moi, ben, circulait au travers des gens. Et les gens se sentaient bien parce que déjà, ils baignaient dans cette énergie. Donc le travail se faisait déjà. Après, ce que je recevais, ce que je faisais, ça aidait. Mais la réalité, il y avait quelque chose qui opérait à travers moi. Et d'ailleurs, c'est tous les gens qui font du magnétisme. Mmh. Voilà, je ne parle pas du magnétiseur qui va juste magnétiser, mais la personne se connecte à quelque chose et qui magnétise, c'est la même chose. Et c'est pour ça que, pour moi, on est tous des thérapeutes. Parce que là où on est, à partir du moment où on se connecte, je vous donne un exemple. J'explique souvent, je parle d'une technique qui s'appelle le SAS, une technique que j'ai imaginée. C'est en fait, notre journée, elle est faite de séquences. Là, on est ensemble, c'est une séquence. On s'est préparé pour ça. Je vais repartir, ça sera une autre séquence. Vous allez rentrer chez vous, c'est une autre séquence. Le problème, c'est que très souvent, on passe d'une séquence à l'autre sans faire quoi que ce soit, sans se préparer. Donc ça veut dire qu'on est dans l'énergie de la séquence précédente, en train de vivre la suivante. Et des fois, on est en train de vivre le moment dans l'énergie de 2 ou 3 séquences d'avant. Donc ça veut dire que ce qu'on a besoin, je donne souvent cette image pour que les gens comprennent bien, c'est comme si effectivement, le soir, vous décidiez de faire l'amour, et puis que vous rentriez dans la chambre, vous jetiez les vêtements, ça peut arriver des fois, mais il y a des moments où on a envie de préparer quelque chose, mettre une bougie, la lumière, etc. Parce que c'est un autre moment. Si par exemple, vous sortez de la séquence, on a couché les enfants, on a fait la vaisselle, j'ai étendu le linge, et on rentre à la chambre à faire l'amour, ça ne le fait pas de la même manière. Donc ça veut dire, c'est juste c'est pour comprendre que on va se préparer dans ce cadre-là, mais ce qui est important, c'est de se préparer dans toutes les actions de notre vie. On ne peut pas la faire tout le temps, Mais quand on peut y penser, on le fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Je suis parti sur ça, je pense que j'ai peut-être pas fini ce que je disais précédemment, mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir conscience que vivre le moment présent, c'est juste d'être en train d'être clair par rapport à ce qu'on veut. Par exemple, il y a quelques années, j'avais quelqu'un qui venait me voir souvent et me disait quand je suis chez toi, je me sens bien. Et je dis ouais, super. Et puis un jour, moi, j'étais pas bien. Et donc, j'avais pas fait ça. Et la soirée était une soirée foireuse, absolument. Et je me suis dit, waouh. Donc, c'est vraiment important de comprendre que pour soi, le moment qu'on va passer avec quelqu'un, ce n'est pas la même énergie que ce qu'on va faire après ou avant. C'est avec cette personne. On peut vouloir, dans un endroit, de l'écoute, etc. On peut avoir, dans notre endroit, de la joie, de la bienveillance, on peut avoir de la sensualité, si on va faire l'amour, peu importe, d'accord. On peut dire, voilà, je mets cette séquence dans cette espèce de cocon, dans cette boule d'énergie. Voilà, c'est quelque chose de privilégié dans lequel on va vivre ce moment.
Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'intention qui est importante aussi ?
Exact, c'est exactement ça. On va avoir une intention, et cette intention, effectivement... Alors, si vous voulez, il y a une chose, c'est que l'intention, on peut l'avoir avec le mental. C'est-à-dire des gens qui vont dire, vraiment, je veux ça. Ça ne va pas le faire, d'accord ? C'est que ce qui fait tout dans l'intention, c'est le ressenti. C'est-à-dire, pour ressentir comment est-ce qu'on fait, on peut fermer les yeux, on va s'imaginer en train de vivre la situation... qu'est-ce qu'on va mettre, voilà, on va mettre ça. Et déjà, on est en train de mettre une vibration particulière. Et pour pousser un peu plus loin, quand par exemple, moi j'ai travaillé dans le domaine commercial, quand moi j'appelais des gens, et souvent j'appelais des personnes parce qu'il y avait eu des problèmes, et les gens avaient mis les problèmes sous le tapis, donc quand j'appelais, c'était un peu tendu, eh bien, je faisais ça à chaque fois. C'est-à-dire que je fermais les yeux, et donc si des gens sont dans un domaine où ils ont des relations avec des personnes, c'est un peu compliqué, juste fermer les yeux, imaginez la personne que vous appelez, voir la conversation, ressentir comment ça se passe, mais le ressentir avec amour, hein, et être en train de voir ce que la personne dit, et voir la fin, et voir que ça se termine bien. Voilà. Et quand à ce moment-là on a vu la fin, on peut prendre le téléphone et appeler, parce que quand on appelle, on est dans l'énergie de la fin, pas du début où on a peur. Et quand on est dans l'énergie de la fin, évidemment, on va rentrer dans cette énergie avec la communication. Pardon, on va rentrer en conversation avec cette personne dans cette énergie. Et obligatoirement, ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver à faire baigner cette personne dans cette énergie.
Merci Jean-Marc. Alors, on va se retrouver tout de suite après une petite pause. Je vous ai demandé de choisir un morceau musical pour faire une petite intermède. Qu'est-ce que vous avez choisi, Jean-Marc ?
Alors, j'ai choisi Susan Boyle. Donc, par contre, le titre, je ne me souviens jamais, c'est Dream a Dream. Dream to Dream. Dream?
Dream a Dream.
Dream a Dream, oui.
Voilà.
Et je vous raconterai juste une petite anecdote.
Oui. Allez, c'est parti, à tout à l'heure.
I dreamed a dream in time gone by. High and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made in you and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder. They tear your hopes apart, and they turn your dream to shame. Still I dream he comes to me.
Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous retrouvons Jean-Marc Vidal, notre invité, pour cette seconde partie d'émission. Alors Jean-Marc, vous exercez en tant qu'accompagnant, coach et hypnothérapeute. J'aimerais savoir qui peut profiter de votre domaine de compétences et pour quelles raisons les gens vous sollicitent.
Ok. Alors, en fait, les gens me sollicitent pour énormément de choses. Donc on va parler du cadre personnel. Ce que moi j'ai remarqué en fait, c'est que les personnes qui viennent me voir aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans la vente, on parle d'une demande, on parle d'objection cachée dans la vente, et là moi je parlerai de demande cachée. C'est-à-dire que les gens la plupart du temps viennent parce qu'ils ont une problématique, mais cette problématique en fait elle cache autre chose. Et j'ai remarqué en ce qui me concerne que des personnes qui viennent ne viennent jamais par hasard, et que la plupart d'entre elles ont de l'intuition. Je crois que le contexte qui me concerne, c'est vraiment la notion d'intuition. Le fait de parler tout à l'heure de coaching de l'âme, c'est de reconnecter à l'âme. En fait, des gens viennent me voir parce qu'ils ont un problème de couple, un problème professionnel. Je vous donne un exemple. Une personne est venue me voir un jour en me disant je voudrais faire des vidéos. Et je voudrais travailler la manière de pouvoir communiquer en public. Parce que dans le coaching, le coaching, pour dire, c'est le coaching. En fait, on va expliquer à quelqu'un, on est dans une période de changement et on va lui permettre de pouvoir aller dans ce changement et en lui permettant d'accéder à ses ressources personnelles. C'est ça, le coaching. Okay. Donc, là, cette personne me dit, voilà, je voudrais faire des vidéos, ok, et puis il me parle. Et dans ce qu'il me dit, je le vois, il veut faire des trucs commerciaux et tout. Et moi, ce que je ressens, le mot qui me vient, c'est authentique. Et je lui dis, moi, ce que je ressens, c'est que dans tout ce que vous me dites, c'est que vous avez besoin simplement d'être authentique, de dire ce que vous faites et de le faire, de le dire simplement, sans chercher à vous vendre. Et de là, donc, c'est quelqu'un qui est ingénieur, qui travaille dans une grosse boîte, beaucoup de responsabilités, mais c'est quelqu'un qui fait des conférences. Je ne vais pas dire sur quoi, parce que voilà, si aujourd'hui il en fait, je voudrais garder son anonymat. Et par contre, il me dit, deuxième rendez-vous, bon, on parle de plusieurs choses, et il me dit, j'ai un problème parce que je ne sais pas comment, comment faire cette transition dans laquelle je veux aller, parce qu'il veut faire une transition et aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel et développement personnel. Et je lui dis, mais quand vous avez un problème dans votre travail, parce qu'il m'expliquait que c'était quelqu'un qui était connu pour résoudre des problèmes. Je lui dis, ça c'est génial, parce que des gens comme ça, ça monnaie très cher. Il me dit, quand il y a un problème, n'importe lequel, on vient me chercher, on sait que moi j'ai la solution. Je lui dis, mais comment vous faites? Il me dit, ce que je fais en fait, il réfléchit, il me dit, le soir, j'écris mon problème sur le tableau, et le lendemain matin, j'ai la solution. Je lui dis, vous savez comment faire pour avoir la réponse à votre question en ce qui vous concerne? Et il m'a regardé, il m'a dit, mais... Ah ouais. Parce qu'en fait, il avait, là on est vraiment dans du coaching, mais il avait vraiment imaginé que ce qu'il faisait dans un cadre professionnel, c'était quelque chose qui était coupé de sa vie personnelle. Parce que souvent, les gens disent, faut pas mélanger personnel et professionnel. Ouais. Mais le talent que l'on a, il s'exprime dans notre vie professionnelle et on l'a pour notre vie personnelle aussi.
C'est souvent ça l'erreur, hein. C'est la séparation qu'on fait dans ces différentes domaines d'activité, etc. Et le fait de vouloir trop trancher entre les deux, on se retrouve plus quoi en fait. Hein.
C'est ça. C'est-à-dire que en fait, notre talent, ce que l'on est, c'est, je vais revenir après sur les personnes, mais notre talent, ce que l'on est, on l'est. On l'est dans notre vie à nous, comme je disais, dans notre vie familiale, dans notre vie associative, professionnelle, etc. On l'est. On n'est pas ça à un endroit. On a une fonction, un masque, quelque chose dans un cadre. Mais par contre, ce que l'on est, le talent, on l'a. Donc, effectivement, il est venu me voir et il me dit, je sais exactement ce que je vais faire, j'ai appelé les gens, c'est OK, ça se fait. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai remarqué, j'ai par exemple une jeune femme qui est aide-soignante qui vient me voir C'est juste comme ça, ça vous permet de voir un peu, de un peu tous les domaines, qui vient me voir et qui me dit, voilà, je suis aide-soignante, je suis dans le domaine psychiatrique, par contre, voilà, je ne sais pas très bien ce que je vais faire. Bon, ok, on parle de ça. Et puis, une fois qu'on a parlé de ça, elle me dit, en fait, bon, j'ai un problème dans ma relation avec les hommes. Et elle me raconte différentes choses. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, bloqué dans son mental, bloqué dans ses cristallisations dont on parlait tout à l'heure, où elle a besoin de beaucoup d'amour, eh bien, elle n'arrivait pas à choisir. Elle était sollicitée, énormément sollicitée, elle n'arrivait pas à choisir. Et là, c'est pareil, en fait, ce qu'on a fait, c'était juste lui permettre de pouvoir clair, de plus chercher quelque chose. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque personne, chacun d'entre nous, moi le premier, je suis passé par là, et par moments, on y repasse, c'est qu'effectivement, on veut quelque chose. On veut quelque chose parce qu'on veut appartenir à quelque chose, ressembler à quelque chose, peu importe. Et le fait qu'on veuille quelque chose fait que toutes les opportunités qui se passent, qui sont là autour de nous, et qui sont faites pour nous permettre d'aller vers ce qu'on a besoin, on ne les voit pas. Donc ça veut dire que la plupart des gens, je dis souvent, beaucoup de gens me disent « Mais comment est-ce que je peux trouver mon chemin ?» Je dis « Mais le chemin, vous y êtes déjà dessus, en train de marcher. » La seule chose, c'est que ce que vous avez besoin, c'est de sortir de toutes vos attentes, vos chimères, pour vous rendre compte de ce qui se trouve sur votre chemin, et le saisir pour avancer. Mmh. Donc parmi les personnes qui viennent me voir, donc il y a des gens qui viennent me voir autant dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, mais la demande cachée, c'est comment est-ce que je peux faire pour être à nouveau à l'écoute de mon âme. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas exprimé comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire comment est-ce que je peux faire. Et la plupart du temps, quand je pose la question, je dis, est-ce que vous avez de l'intuition? Les gens me disent, ah oui. Mais ils disent, ah oui, comme, ok, j'ai de l'intuition. Mais j'en fais rien, d'accord? Alors qu'ils en font rien parce que tout leur esprit est focalisé sur autre chose. Donc, tout ce qui vient et qui sont des choses, par exemple, surprenantes, il y a des choses qui sont complètement surprenantes. Parfois, par exemple, je vais juste parler de ce que je racontais au niveau de Suzanne Boyle. J'ai été la voir en concert à Manchester il y a 2 ans. Et dans l'avion, tout était fait pour que je n'ai pas mon avion, je devais changer de vol. Et il y a quelque chose en moi qui est venu qui a dit « Oui, tu l'auras ». Alors que c'était impossible. Eh bien, je l'ai eu. Donc, ça veut dire que j'aurais pu... quelqu'un qui serait dit, ben moi je vois Suzanne Boyle, ça fait 10 ans que je voulais la voir, et là à ce moment-là c'est le mental qui commence à se dire, oh mon Dieu, comment je vais faire? Là c'est sûr que c'est mort.
Oui, c'était une période quand même assez compliquée où, à cause du Covid, beaucoup de spectacles ont été annulés.
Tout au début c'était.
Voilà, les moyens de transport aussi, on ne pouvait pas circuler. Donc malgré tout ça, la confiance était là.
L'intuition qui est venue, qui a dit, ok, ça va le faire. C'est ça qui est important. Et. C'est pour ça que dans le monde dans lequel on est, ce que je disais tout à l'heure, dans lequel on est, et aujourd'hui, on ne peut rien prévoir. Si vous voulez, pendant des années, on a fonctionné dans le monde du pouvoir et du contrôle. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des burn-out tout simplement parce qu'ils perdent le contrôle, parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à contrôler les choses. Et dans ce moment-là, tous les gens qui vont chercher à contrôler, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de burn-out, tous les gens qui vont chercher à contrôler vont se retrouver dans des difficultés psychologiques incroyables. Parce que justement, on ne peut pas contrôler aujourd'hui. On ne peut pas contrôler. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si on lâche, c'est être à l'écoute pour recevoir les choses qu'on a besoin de faire maintenant. Parce que le contrôle, ce n'est pas ce qu'on doit faire maintenant. Le contrôle, c'est qu'on a peur par rapport à ce qui va se passer demain et sur lequel on n'a aucune main, enfin aucune prise. C'est ça, la perte de contrôle. Par contre, sur le moment, on n'est pas tellement dans le contrôle. C'est surtout dans les projections qu'on va avoir. Et comme on ne sait pas comment on va faire après et qu'on a peur, ben à ce moment-là, on panique. Donc là, ce qu'il y a besoin aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de méditation aussi, on a besoin tout d'abord d'enlever les choses qui nous gênent, de façon à ce que notre mental il soit moins sollicité, et que dans des moments où on va avoir des agressions extérieures, des personnes qui vont peut-être nous parler d'une certaine façon, et ça réveille des émotions, une situation financière, professionnelle, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réagir, ça veut dire que justement, on va prendre de la hauteur et de la distance pour regarder la situation et ressentir ce qu'on a besoin de faire maintenant. C'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que dans le public qui vient me voir, les personnes qui viennent me voir, et également en visio, parce que je travaille beaucoup en visio, ce sont des personnes qui viennent de tous bords. Mais je sais que quand elles viennent me voir, il n'y a pas de hasard. Voilà. Il peut y en avoir une qui s'est un peu perdue, ça arrive, mais disons que la plupart du temps, il y a vraiment un dénominateur commun. Voilà. Elles viennent me voir parce que j'ai quelque chose à leur donner et quelque chose leur permet de pouvoir passer. Voilà.
Alors, tout ça nous amène aussi un petit peu pour expliquer aux gens ben, qu'est-ce qu'ils trouvent chez vous en termes de technique. Comment se passe une séance? Est-ce qu'il faut parfois plusieurs séances? Est-ce qu'il faut un suivi? Voilà, quels sont les cas de figure des soins que vous pratiquez?
Alors, il y a plusieurs choses. On va parler de l'hypnose. L'hypnose, en fait, c'est pas une thérapie. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une situation, on va travailler sur 2-3 séances. Voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire. Moi, j'ai l'habitude de faire une chose, c'est quand je fais une séance, que ce soit un coaching ou une hypnose, je fais un état des lieux. C'est-à-dire, j'écoute la personne et c'est la façon de faire. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, une écoute évidemment, mais une perception des choses qui permet de poser une cartographie. De manière à ce que la personne, elle voit la situation, ce qui était, ce qui se passe, ce qui peut se passer, et comment commencer à agir dessus. Voilà, c'est la première chose. Donc, ensuite, on va travailler effectivement sur les différents cas. Donc, on va travailler, après, les séances, elles vont être diverses, suivant les besoins. Mais évidemment, on va faire une chose. Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui sont très suggestives, et qui, en hypnose, on peut même faire des inductions rapides, où la personne va rentrer très rapidement en hypnose. Et puis, certaines personnes, tout le monde... On peut faire l'hypnose avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc là, ça va demander un peu plus de temps, 15, 20, 30 minutes, ça dépend, pour pouvoir vraiment mettre la personne dans un état d'hypnose. Et puis il y a des gens qui vont avoir besoin, par contre, quand ils viennent, ce n'est pas spécialement de l'hypnose, ils ont besoin déjà d'apprendre à se détendre. Donc, lorsque quelqu'un contrôle beaucoup, il faut déjà commencer à ce qu'il soit en confiance et qu'il se détende. Voilà. Et une fois que la personne va se détendre, va lâcher, obligatoirement, on va pouvoir effectivement travailler. Mais la première chose, c'est la personne se détendre. Alors le but, c'est pas l'hypnose, c'est pas de dormir ou de détendre la personne. Le but, c'est pas une relaxation. Hein. Mais je dirais que la personne, à un moment donné, va lâcher de façon à ce que les messages et les choses qui vont se passer puissent passer plus facilement. Voilà, que les choses puissent être entendues, non pas avec le mental, mais avec le cœur. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est dans l'hypnose. Dans le cas du coaching, c'est différent. Le cas du coaching, c'est quelque chose où on va travailler sur 12-15 séances, ça va dépendre du projet. Il y a des personnes, c'est après un deuil, des personnes, c'est quelqu'un qui part à la retraite, pour une autre personne, c'est le fait de préparer un changement professionnel, il veut se préparer parce qu'il a des responsabilités, une autre personne, ça va être la prise de parole en public, enfin voilà, prise de parole en public, ça va être plus court. Mais disons que lorsque des gens ont des changements de projet, changement de vie, changement professionnel, voilà, on va travailler par étapes de manière à poser les choses. Mais ce qui est important, c'est que, en ce qui me concerne, c'est que je travaille vraiment avec les deux. C'est-à-dire que pour moi, je mélange en fait le coaching et l'hypnose. Parce qu'il y a des moments, on va faire une séance d'hypnose, on aura besoin de travailler sur des choses d'un coaching, et derrière, il y a une autre séance d'hypnose. Voilà, c'est pour ça que je pratique les deux, parce que pour moi, ça me paraît être quelque chose de tout à fait complémentaire. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Donc 3 séances... Mes séances durent à peu près 1h15, 1h30. La première, 1h15, 1h30, c'est sûr. Ensuite, ça va dépendre. Il y a certaines séances où ça a duré 2h, parce qu'effectivement, c'était très important et que voilà, il fallait qu'on termine. Il ne fallait pas que la personne parte avec quelque chose en suspens. Mais normalement, c'est 1h15, 1h30.
Très bien. Alors, pour aller jusqu'au bout, hein, comment on fait pour vous contacter, pour prendre rendez-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un numéro de téléphone, hein, on peut me joindre. Hein. Vous voulez le donner ou...
Ah, vous pouvez.
Ok, donc il y a plusieurs lignes, mais on va donner 06 03 05 28 80. Voilà, donc là, on peut me joindre directement. Sinon, en allant sur mon site, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous. Vous avez une page où il y a tous les services. Donc, il y a le coaching de vie, le coaching professionnel, le coaching de l'âme. Vous avez également les libérations émotionnelles. C'est une technique que j'utilise, et une technique qui s'appelle NERTI, qui est une technique qui est très forte, très puissante. La partie hypnose, où effectivement, on va pouvoir travailler sur les addictions. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup plus sur, déjà, toute la partie émotionnelle qui est la cause de toute la partie addictive. Mmh. Voilà, c'est ça qui est important. Donc on peut sur mon site, c'est très simple pour le nom de mon site, c'est jeanmarcvidal.com. Là-dessus, vous arrivez, vous verrez d'ailleurs des choses sur l'intuition, il y a des choses pour les chefs d'entreprise, mais il y a une partie évidemment qui est une partie pour chacun. Et également, c'est pour ça que je veux dire un mot par rapport à ça, parce que c'est important. Pour moi, c'est cette notion de leader du nouveau paradigme, entrepreneur du nouveau paradigme. Je pense qu'on est dans un moment de transformation profonde. Ce moment de transformation, je le vois parce que je rencontre ces gens-là. Il y a dans la nature des gens qu'on ne voit pas, qui sont des gens qui sont porteurs de cette transformation. Certains n'ont pas encore confiance en eux parce qu'on est quand même encore dans quelque chose sous un règne. Tout à l'heure, vous parliez de management, mais sous un règne, malgré tout encore, qui est très formaté. Très structuré, avec des concepts précis dans lesquels les gens sont enfermés. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont peur de sortir la tête. Vous savez, quand il y a une foule et qu'il y en a un qui sort la tête, celui qui prend les tomates, c'est celui qui a sorti la tête. Donc, il y a des gens qui ont un petit peu peur d'exprimer ça. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup, de plus en plus de gens qui osent le faire. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens jeunes qui le font. Pour moi, c'est cette génération de gens qui ont même 20 ans aujourd'hui. Et alors évidemment tous les autres qui ont entre 5 et 20 ans, hein, pour moi ils sont arrivés câblés différemment.
Oui.
C'est-à-dire que moi ce que j'ai dû enlever pendant 40 ans, c'est énorme. Eux, ils arrivent déjà sans tout ça. C'est comme si par exemple, tout ce qu'on a fait auparavant, ça on l'a gommé. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas de difficultés, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des souffrances, au contraire, ils ont les mêmes choses que tout le monde. Mais par contre ils arrivent avec « c'est possible ».
Oui, avec un terrain un peu plus vierge, on va dire.
C'est ça.
Hein,
c'est
enfin, ça. C'est demain, ça. Ce sera plus vierge. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui.
C'est, hein, exactement ça, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ces leaders du nouveau paradigme, ces entrepreneurs du nouveau paradigme. Parce que je pense que, dans mon livre, je termine en disant, vous êtes celui qui peut changer le monde parce que le monde, c'est vous. C'est-à-dire que vraiment, ce qui peut faire changer les choses, c'est parce que de plus en plus de gens osent cette transformation, accepte cette singularité et ose mettre en place des alternatives. Parce qu'en réalité, on est dans des schémas qui sont assez binaires. Donc soit c'est la norme, soit vous êtes marginal. Point. Mmh. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la singularité, c'est justement la force.
La différence.
Et le talent. Je dis la singularité, oui. Pas la différence exprès. Oui. La singularité, dans le sens différent, c'est plutôt par rapport à la norme. La singularité, c'est par rapport à soi. D'accord ? L'unicité, voilà. Et l'identité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin que de plus en plus de gens osent être eux-mêmes, être soi. Mais être soi, c'est vraiment osent faire les choses. Parce que tout ce qui va être demain n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et évidemment... Lorsque des gens, et ça je voudrais le dire pour des gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas bien dans ce monde. S'ils ne se sentent pas bien dans ce monde, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien, c'est parce qu'ils sont venus pour faire autre chose. Et c'est vrai que dans notre génération, dans ma génération en tout cas, si on n'était pas de ce monde, on était marginal. C'était le mot, c'est réglé. Alors que simplement ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est juste de prendre conscience que pour être dans ce monde, on a besoin d'être soi. Et que justement, parce qu'il y a quelqu'un qui va oser faire quelque chose, il va ouvrir une voie. Il y a une personne que j'ai écoutée, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est partie avec son van, son camping-car, vous avez peut-être entendu parler de ça, une jeune femme, et qui a décidé de se couper de tout. Plus de sécurité sociale, plus rien. Mm-hmm. Et donc, elle s'est fait un certificat, je crois, de citoyenne du monde, quelque chose comme ça. Et en fait... elle a osé faire ça, c'est complètement fou, donc coupée de tout. Et elle s'est fait arrêter par des gendarmes, et donc elle montre... bon, elle n'a pas les papiers, elle n'a plus rien, quoi. Et donc, il la contrôle, et puis elle s'attendait à se faire prendre un PV, enfin, moi, qu'il ne soit pas du tout agréable. Et le type lui dit, écoutez, j'étais en train d'écouter votre vidéo hier soir avec ma femme. Et donc, c'est... Je me suis dit, mais c'est fou.
Voilà, ouais.
C'est-à-dire que cette femme, elle a osé faire un truc qui est, je dirais, il y a 40 ans, on aurait dit, mais bon, elle est folle, quoi. Voilà, le mot, elle est folle, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, elle ose être elle. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles elle ne fonctionne pas. Donc, elle ouvre des voies, ça ne veut pas dire que c'est la voie. Ça veut dire qu'elle ouvre des voies, elle ouvre le fait que d'autres fassent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Le problème, c'est que dans le monde dans lequel on est, qui est un monde de contrôle, quand on voit des gens qui font ça, on se dit mais si tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le bordel. Alors que c'est pas ça, ça veut dire si tout le monde fait ce qu'il veut, ça veut dire dans le cadre où il ferait des choses mauvaises. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'explorer des voies. Ces voies seront ou seront pas. Mais par contre, peut-être qu'elles inspireront d'autres personnes qui iront dans quelque chose de plus abouti, peut-être de plus grand, d'accord ? Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui le démarre.
Mmh.
Et là, aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a énormément de gens, et surtout, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables d'oser être eux-mêmes.
Oui, et que les autres soient moins dans le jugement.
Exactement.
Alors merci, Alors je précise, Jean-Marc, que vous êtes sur Toulouse, mais que vous faites aussi les consultations en visio, hein, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Et c'est vrai qu'en ce moment-là, je risque d'avoir quelques temps où je risque de bouger peut-être un peu sur Tarbes, mais de toute façon, en visio, on peut faire les choses de la même manière.
Voilà. D'accord, très bien. Allez, on lance une petite musique, cette fois-ci de mon choix. Je vous laisse deviner le titre parce que je ne m'en souviens pas, tout simplement.
Sun. We went to the train station. I held you one last time. Promised to stay the man I am. What about you?
Sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marc Vidal. Jean-Marc, vous exercez votre métier avec passion depuis plus de 20 ans en tant que coach et hypnothérapeute. Comment et pourquoi, selon vous, les techniques de bien-être ont-elles évolué depuis ces 20 dernières années ?
Alors, ce qui est intéressant, je vais vous répondre en prenant une petite anecdote. Je suis coach également dans un domaine où on travaille sur le corps, le coaching somatique. Et donc, lorsque j'ai fait une déformation avec la personne qui pratique et qui m'a formé, à un moment donné, elle m'a proposé de faire un petit exercice avec elle. Elle m'a dit, voilà, alors on s'est mis ensemble, comme souvent dans des ateliers, on fait des choses à deux. Et on a fait cet exercice. Et à la fin, elle a dit, je viens de créer un processus. Et là, ça m'a... J'ai une prise de conscience dans le fait que chaque personne qui a amené une nouvelle technique, à un moment donné, l'a créée. Disons que ce n'est pas tombé du ciel. Enfin, disons qu'il y a eu des essais. Les gens ont fait des choses. Et en fait, elle a osé faire quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle a senti. On revient toujours à la même chose, à l'intuition. Elle a senti, elle l'a fait. Aux yeux des gens qui étaient autour, et même comment je l'ai fait, ce n'était pas quelque chose de construit, de cohérent. Mais il y a quelque chose. Et au fur et à mesure, ça s'est construit. Et il y a eu un processus qui s'est créé. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par le passé, il y avait des choses qui étaient très arrêtées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des quantités de noms, de thérapies, de techniques. Tout simplement pourquoi ? Parce que, comme en sophrologie avec Caicedo, en fait, Caicedo, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des choses un petit peu partout et il a créé la sophrologie. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui donnent un nom, une technique, dans laquelle ils ont mis un peu de ci, un peu de ça, parce que ça leur paraît cohérent et qu'ils ont testé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une. Même si des choses sont assez formaté. Par exemple, dans le coaching, il y a des choses formatées, il faut être certifié CRNCP, enfin, il y a des choses très formatées. Mais je me rends compte que même les coachs aujourd'hui, pour en avoir fréquenté un certain nombre, font beaucoup de formations parallèles. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est limité. Donc, c'est-à-dire quand ils font du coaching, ils vont utiliser différentes techniques au milieu. Donc, aujourd'hui, les choses évoluent parce qu'il y a une espèce d'ouverture et que des gens sont plus à l'écoute. Ils ne sont pas plus en train de dire « Ok, je fais la psychanalyse freudienne, je suis freudien, basta. Okay? C'est l'école, je suis ça. » Non, non. Des gens aujourd'hui, soit avec des personnes, ils sont à l'écoute, ils se rendent compte qu'ils ont une problématique, ils n'arrivent pas à résoudre cette problématique. Ils cherchent des gens qui ont des techniques pour amener autre chose. Donc ça veut dire que... Et au milieu, il y a des gens qui sont des praticiens, puis il y a des gens qui sont des créateurs praticiens et qui petit à petit vont explorer, comme je le disais tout à l'heure, on va être avec quelqu'un, on va l'accompagner, et à un moment donné, on va sentir qu'il y a quelque chose à faire, on est en train d'inventer quelque chose. Oui. Donc ça veut dire que, de cette façon, petit à petit, on garde évidemment un cadre, on garde des processus, mais disons que ça, ces processus sont importants au début parce qu'on est dans un cadre, donc on se sent en sécurité. Mais en fait, par la suite, on peut vraiment être à l'écoute et savoir qu'à un moment donné, hop, on va faire ça, mais ça va être juste une partie d'une technique qu'on va mettre là, mais on va mettre aussi autre chose derrière, parce que tout ça s'enchaîne. Okay ? Donc c'est juste comme pour un pianiste, à un moment donné, ben voilà, on oublie la partition, et simplement on va jouer parce qu'on a la musique. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Quoi.
Bien. Et alors, sur les 2 années qui viennent de s'écouler en rapport avec le Covid, hein, on a véritablement senti que les gens se posent beaucoup de questions sur la société, la gouvernance de notre pays et sur eux-mêmes. Hein. Alors, selon vous, est-ce que c'est quand même une bonne chose de s'interroger, de se remettre en question en permanence ? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, en fait
Alors, cette période, en fait, elle a été excessivement bénéfique parce que des gens se sont retrouvés à avoir du temps.
C'est ça. Ouais.
Et donc, au début, ils se sont, je vais utiliser un mot, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des choses différemment et ils occupaient leur temps. Puis, le problème, c'est qu'il y en a qui se sont dit, c'est quand même sympa d'avoir du temps. Donc, ça a été quelque chose de bénéfique où tout d'un coup, des gens ont rompu. Enfin, il y a une. C'était obligé puisqu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc il y a quelque chose qui a été rompu, je cherche le mot, quelque chose d'abrupt, oui. qui a fait que tout d'un coup, ils sont passés de tout à rien. Donc, et puis des gens ont lu, voilà. Bon. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'est venu aussi toucher des émotions, parce que quand on vit avec une famille dans une maison, 8 heures
par jour pendant un mois, c'est pas la même chose que quand on est en vacances et qu'on va à la plage. Donc obligatoirement, dans les couples, il y a eu des séparations, on sait qu'il y a eu des violences, il y a eu des choses très douloureuses et très difficiles qui sont passées. Donc obligatoirement, ça a mené des gens soit à séparer, soit à s'interroger. Donc ça a été bénéfique. Et puis en même temps, il y a une chose qui est intéressante, c'est que je dirais, alors on ne va pas parler de politique, mais je dirais que les mesures qui ont été prises, pour moi, elles sont extraordinaires. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, de toute façon, les changements, on les fait de gré ou de force. Donc, là, cette contrainte, cette pression qui a été exercée, fait que, pour beaucoup de gens, donc je disais, ça a été violent. Ça a été violent pourquoi ? Parce que c'est venu les chercher sur des choses, chez eux. Une des principales choses auxquelles les gens aspirent, c'est la liberté. Et là, on les a contraints. Donc, toutes les personnes qui, effectivement, vivent un sentiment, le sentiment d'être bloqué dans leur vie, alors là, ça a été terrible. Parce que là, non seulement ils étaient bloqués dans leur vie, ils le sentaient, mais la situation faisait qu'ils se sentaient encore plus bloqués. Et je sais qu'il y a des... J'ai écouté des reportages, j'ai eu des personnes qui souffraient, mais c'était terrible. Des jeunes femmes qui souffraient, c'était absolument terrible. Donc, ce qui est important, c'est que par moment, c'est important de se poser des questions, et par moment, c'est important de ne pas s'en poser. La première chose, c'est que parfois, des gens me disent « Mais voilà, je ne sais pas si je devrais venir vous voir. » Je dis « Comment ça se passe ? Est-ce que ça va bien ?» Je dis « Oui. Vous sentez bien ? Oui. » « Ben ok, vous n'avez pas besoin de moi. » À partir du moment où ça va, on sent bien, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller s'embêter ? Ok ? Par contre, là, je donne moi souvent cet exemple, lorsqu'on est arrivé à un point de tension, aujourd'hui, toute la société, tout ce qui se passe, fait que cette situation du Covid a amené des gens à un point de tension extrême.
De bascule aussi.
C'est ça. Mmh. Alors, de tension, pour que ça bascule. Parce qu'en fait, souvent, des gens vivent dans un semi-bien-être, mal-être. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est ni bien ni mal, et on s'habitue petit à petit à cette situation. Donc, à un moment donné, il y a un pic. Donc, il y a une situation où, à ce moment-là, on se dit non. Et là, c'est le moment de le faire. D'accord ? Alors, si on peut le faire avant, c'est mieux, parce que des fois, dans une situation de crise, c'est pas toujours le bon moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça. Donc, par moments, c'est important de se poser des questions. Mais il y a des moments où, si on se demande toujours pourquoi il se passe ça, etc., à un moment donné, il faut lâcher. Parce que ça, c'est le mental qui se pose la question. Et ce qui est important, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on se pose des questions, c'est notre mental qui se pose des questions. Okay ? En tout cas, notre mental, il n'a pas la réponse. Il peut se poser la question, mais il n'a pas la réponse. Par contre, quand justement on va lâcher et qu'on va simplement dire « Ok, je sais qu'il y a une réponse, ok, je ne l'ai pas pour l'instant, basta. » Et à ce moment-là, on lâche et on se dit « Ok, je sais qu'il y a quelque chose, dans le mot déjà « je sais qu'il y a quelque chose » va faire qu'on est à l'écoute et on est ouvert aux choses. Et on va pouvoir voir ces opportunités, les choses qui vont venir. Donc, cette situation, pour moi, a été bénéfique. Cette situation fait que, et les autres situations dans notre vie font que, des moments, oui, il faut s'interroger, et des moments, il faut lâcher.
Bien. Alors Jean-Marc, l'émission avance, mais j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de votre livre, je crois qu'il s'appelle « Il était une fois soi ».
Tout à fait, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ?
Alors, dans ce livre, c'est un livre en fait qui... c'est un livre qui est un parcours initiatique en fait, d'accord ? On va trouver quelque chose d'essentiel que j'utilise régulièrement, et d'ailleurs en cabinet aussi. C'est un système de décodage. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a des histoires, je raconte des vies, je raconte, parle à la mienne aussi. Et je parle aussi d'un processus qui est vraiment cette colonne vertébrale, dont le but est de pouvoir identifier les peurs, les croyances, et de pouvoir déjà... Alors, c'est quelque chose qui est plus au niveau du mental quand on va identifier les peurs et les croyances, parce que ça ne va pas obligatoirement changer les choses. Mais déjà, ça va permettre, pour certaines personnes, vraiment d'avoir des prises de conscience. Donc, on va partir de quoi ? On va partir de la maladie, par exemple. On va partir des relations professionnelles, des relations humaines. On va partir des différents cas de notre vie, des problèmes de l'argent. Et on va se rendre compte qu'en partant d'une problématique, on va avoir de façon récurrente des choses qui vont ressortir dans les autres domaines, qui vont nous permettre de pouvoir identifier la croyance et la peur qui nous empêchent de faire les choses. Par exemple, imaginons que quelqu'un découvre que le fait qu'il cherche l'abondance et que par rapport à quelque chose qu'il porte, l'abondance pour lui signifie la mort. Donc vous avez quelqu'un qui va être en train de proclamer « Je suis l'abondance », qui va chercher à faire des choses pour être dans l'abondance, mais chaque fois qu'il va être en train de faire des choses et qu'il va être en train de la créer, il y a une peur derrière et une croyance qui dit « Ok, si je l'ai, je meurs.
Mm. »
Alors ça, c'est un exemple fort pour bien comprendre. Cet exemple, je le prends, je l'avais. C'est pour ça que je peux le donner. Ça paraît complètement incroyable. Je dis non, c'est pas possible. Mais si, parce qu'effectivement, alors là, c'est quelque chose qui est plus personnel, mais j'ai eu l'occasion de le vérifier dans une vie. Alors, on va parler d'une vie antérieure. Donc, pour des personnes qui ne croient pas aux vies antérieures, ben vous laissez ça de côté. Mais en tout cas, je peux parler de mon cas où j'ai fait une régression seule en auto-hypnose et dans lequel j'ai vu ça et je l'ai vérifié avec d'autres personnes. Effectivement, il y avait une personne, à un moment donné dans ma vie, un jour, dans une vie antérieure, j'étais quelqu'un de très riche, par contre qui est mort, tout simplement à cause de cette richesse. Donc obligatoirement, pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi je me battais, et j'arrivais pas, quand je commençais à arriver au moment où j'allais saisir tout ce que j'avais fait, à ce moment-là, ça partait, tout simplement parce que la peur qui était derrière moi me faisait sortir de la situation pour éviter de mourir.
Donc, disons que là,
quand on parlait, est-ce qu'il faut se poser des questions ? Ça, c'est important. Donc, dans le livre, en fait, on va trouver différents axes qui vont nous permettre. On va parler des mendiants de l'amour, on va parler de l'amour, on va parler des relations évidemment humaines, mais on balaye vraiment l'ensemble de la vie. Et surtout, il y a cette colonne vertébrale qui permet de faire que, au travers des différents processus qui vont être utilisés, on va pouvoir identifier de façon récurrente des choses qui sont semblables. On va se rendre compte que les problématiques qu'on a souvent un peu dans tous les domaines, elles sont liées aux mêmes choses, aux mêmes croyances. Et pour l'avoir testé de nombreuses fois et que de nombreuses personnes l'utilisent, un jour j'étais avec une personne qui aime me voir. Elle avait une entreprise, elle voulait que je l'aide. Et elle commence. Et elle se met à un moment donné à tousser, je vais faire un petit peu de respiration, et elle se met à tousser, elle me dit « Excusez-moi, j'ai de l'asthme ». Et là, je lui pose la question, je lui dis « Mais de l'asthme, depuis quel âge ?»« Depuis l'âge de 26 ans ». Voilà, je lui dis « C'est intéressant ». Et je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé 6 mois avant ?» Elle me dit « Ben rien, tout allait bien ». Elle me dit « Ah, si ». Elle me dit « Si, si, j'étais dans telle situation, j'étais avec une personne qui était absolument abjecte, et vraiment, je pouvais pas respirer, quoi ». Et là, quand elle dit ça, elle se met à pleurer, quoi. Donc ça veut dire que parfois, il y a des prises de conscience qui vont être puissantes et qui vont être libératrices. Parce que là, ce qui s'est passé, elle est revenue 15 jours après. Ça ne s'est pas passé pour d'autres personnes, mais 15 jours après, elle est arrivée, elle me dit, tu sais, j'ai plus d'asthme.
Eh oui.
Donc ça veut dire que le fait de pouvoir focaliser, de pouvoir découvrir quels sont les liens entre ce que l'on veut, les peurs que l'on a, d'accord, nos besoins, et les croyances qui sont accrochées, c'est indispensable. Et je terminerai sur une chose, parce que quand on parle de croyances et de peurs, souvent c'est lié à des personnes. Je dis que c'est lié souvent, cette période de 0 à 7 ans, et c'est souvent lié au père, à la mère, ou une personne d'autorité. Ou alors c'est lié aussi parfois à l'éducation, mais à l'école, ce qui arrive aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va découvrir notre peur, on va se rendre compte, souvent, ce n'est pas le cas dont j'ai parlé pour moi tout à l'heure, mais que ces peurs et ces croyances, on les a adoptées, mais ce sont des choses qui étaient dans notre environnement. Et quand on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'appartient, on se rend compte que non, quoi. Okay. Et pour ajouter quelque chose pour des personnes qui voudraient faire un petit processus par rapport à ça, il y a quelques années, j'avais interviewé Jacques Salomé lors d'une interview que je faisais sur Télé Toulouse, donc lors d'une émission, donc il y a très longtemps. Il avait raconté lors de cette soirée, il avait dit voilà, j'ai ma fille un jour qui est venue me voir, enfin qui descend les escaliers et qui était habillée, ben, il y a très longtemps, hein, donc elle était habillée à mini-jupe, tout ça, mais à l'époque ça ne se faisait pas. Je sais pas, ça devait être dans les années 70 peut-être. Et donc, il dit à sa fille à l'époque, c'est lui-même qui le dit, donc je me permets de le dire, il lui dit eh bien, comme ça, tu ressembles à une pute. Donc Jacques Salomé, qui est plutôt l'homme de la relation, de l'amour, voilà, on imagine. Et donc sa fille dit rien, son fils, avec sa fille, se voit, et il chope un manche à balai qui scie, et avec une pyrogravure, ce qui se faisait avant, maintenant on ne parle plus de pyrogravure, il grave dessus ceci ne m'appartient pas. Et non, pas ça, c'est pas ça, c'est je suis une pute. Voilà, elle écrit dessus. Et donc, ils arrivent à table, Jacques Salomé, sa fille, le fils, la maman, et la serviette posée sur le morceau du balai en bois. Et là, il ouvre le truc, il voit marquer « Je suis une pute ». Et elle lui dit « Papa, je remets ça chez toi parce que ça n'a rien à faire chez moi. Ça ne m'appartient pas. »
Excellent.
Voilà. Donc, ça veut dire que si, effectivement, il y a quelque chose que vous sentez avoir pris de quelqu'un, c'est important, à un moment donné, même de l'écrire, de le verbaliser, pas de le verbaliser à la personne. Parfois, la personne n'est pas capable de l'entendre. Ça, c'est sûr. Mais au moins de l'écrire, de faire un geste symbolique de manière à sortir surtout quelque chose que vous portez qui ne vous appartient pas, pour venir le déposer dans le terrain, dans le domaine de la personne à qui ça appartient, de manière à vous en libérer.
C'est une très belle métaphore, en tout cas, voilà, merci beaucoup Jean-Marc. Est-ce que vous avez un dernier message pour nos auditeurs ?
Bien, je voudrais dire juste qu'aujourd'hui, tout à l'heure je parlais de singularité, et ce mot singularité m'a été, je dirais, offert par Alexandre Jolien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai fait venir en conférence à Toulouse il y a quelques années. Et un jour, je l'avais fait venir parce qu'effectivement, il a un handicap et j'ai une fille qui a un handicap aussi. Et donc, je parlais de différence, de vivre ensemble avec nos différences. C'est un peu le slogan. Et il me dit, Jean-Marc, je préfère le mot singularité. Et il m'a expliqué la chose. Et je pense que ce que je voudrais vous dire, c'est quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la personne que vous êtes, acceptez votre singularité. Ne regardez pas ce que les autres sont. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être en marche, peut-être pas accepté. Mais sachez que, moi je dis souvent, on fait les comptes à l'arrivée. Et ce qu'une personne est aujourd'hui, elle ne le sera peut-être pas demain. Par contre, ce que vous êtes vous, si vous donnez le droit de l'être, votre singularité, vous le serez toujours. Et c'est ça qui est important, c'est juste de pouvoir traverser sa vie, juste en se disant, j'ai fait au moins une chose, c'est j'ai exprimé ma singularité, mes talents. Et si j'ai fait ça, je suis heureux et je serai heureux.
Très beau message. Un grand merci à vous, Jean-Marc.
Merci Adeline, merci à vos auditeurs de ce moment qu'ils ont passé avec nous. Merci encore.
Merci. C'était Énergie Violette, donc une émission présentée par Adeline Courson à la technique Tiffaine Lemaine. Vous pourrez retrouver le podcast, bien sûr, de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Namasté à vous, les amis, et prenez soin de vous surtout.